Claude, ce matin, on parle d'une soutane.
Une soutane que le grand réalisateur Jean-Pierre Melville avait emportée en Italie sur le tournage de La Ciociara de Vittorio De Sica pour la faire essayer à Jean-Paul Belmondo qui refusa l'habit. Mais Melville dit à Belmondo qui détournait le regard « Je veux photographier ton âme ». Et il revint le voir quelques mois plus tard, novembre 1960, sur le plateau d'Un homme et une femme de Godard, le sourire aux lèvres et la soutane encore sous le bras. Et cette fois, Belmondo accepta d'attacher les 33 boutons de l'habit ecclésiastique et chacune le trouva magnifique. Et ainsi, Belmondo devint Léon Morin, prêtre, cet homme d'église Don Juan qui rend les femmes folles. Il allait faire du costume une peau et pourtant en rire, il ne faisait jamais taire le bouffon en lui. Désormais, disait-il à Melville qui choquait, je vais aux putes en soutane. Et il nourrissait le personnage de ses souvenirs, un abbé connu dans son enfance, sous l'occupation, avec qui Jean-Paul, âgé de 11 ans, enterrait les corps des pilotes alliés abattus par la DCA nazie. Tout ceci est raconté sur le site du Monde, qui a remis en ligne une splendide série d'articles signés Samuel Blumenfeld, qui il y a un an brossait un portrait de Belmondo. Et quand des lèvres charnues, une espièglerie et puis ces mots, Bébel le magnifique, disent notre peine aux unes des journaux, relire Blumenfeld dans le Monde est à la fois une joie et une souffrance, comme la beauté de Deneuve dans La sirène du Mississippi, souffrance de la perte, mais joie de dire Belmondo au-delà des anecdotes qui font les veillées funèbres. Oh! On nous en dit dans nos journaux sur Belmondo et joliment encore, vous apprenez dans la montagne qu'à 16 ans, Belmondo, envoyé dans le Cantal, respirait du bonheur après des ennuis aux poumons, faisait le clown dans des kermesses et promettait aux copains qu'il serait comédien en haut de l'affiche. La Voix du Nord se souvient du tournage de Week-end à Zuidcote. Nice Matin raconte les fêtes de la Côte d'Azur. Françoise Fabian, qui était la fille de la bande des jeunes fous du Conservatoire d'art dramatique et que nous avons entendu ce matin, est dans Le Parisien, elle qu'il tirait sur la laine du pull vert informe que Jean-Paul ne quittait pas. Mais vous en savez déjà tant.
Mais nos journaux racontent aussi ce qu'a symbolisé Belmondo.
Qui fut une irruption de jeunesse, une modernité absolue, écrit dans Midi Libre et La Charente Libre, Henri Jean Servat, et puis ensuite un moment du pays dans les années 70-80, par ses films populaires, ses cascades. Le dessin de Rançon dans Le Parisien montre Belmondo arrivant au ciel, tracté par un hélicoptère et portant le caleçon à pois rouge du Guignolo. Mais pour dire Belmondo, on doit aller au-delà, prendre des risques. Et dans Libération, la critique et cinéaste Camille Nevers écrit comme on tente une cascade. Elle sculpte de mots le corps et la vie de Belmondo, qui était, dit-elle, tantôt boule de virilité, tantôt pitre assumé, virevoltant acrobate tombeur, homme arc-en-ciel, poisson tropical, et qui aussi était un bleu bec, une gueule bleue, la représentation d'une France. Belmondo se situait, écrit Nevers, sur la ligne de cœur et de hanche en abscisse qui va d'Arthur Rimbaud à Alexandre Dumas, mais il était plus que cela encore, Belmondo. Il était, écrit Nevers, un clou noir, un nègre blanc, dont la peau bronzée, le nez de boxeur, renvoyait à l'idée de l'homme de couleur, comme on ne dit plus, dans un temps, avant en Marcy, où aucun comédien noir en France ne pouvait prétendre au premier rôle. Bébel jouait ce rôle-là aussi. Il était d'une époque. D'une époque ? En témoigne un texte enjoué que l'Obs a remis en ligne, il date de 1998, une interview croisée de Delon et Belmondo, où Belmondo racontait ainsi sa rencontre avec Jean-Luc Godard. « Je voyais souvent un type mal rasé avec des lunettes, un jour il m'aborde et me dit « Est-ce que vous voulez faire du cinéma? J'ai un court-métrage à tourner, venez dans ma chambre rue de Rennes, je vous donne 500 francs. » Moi je me dis « C'est un PD » et je le dis à ma femme, elle me dit « Vas-y, et s'il t'emmerde, tu lui mets une droite ?» Mais dirait-on les choses ainsi aujourd'hui?
Et l'on parle aussi, Claude, de la beauté des hommes.
Dans le journal L'Équipe, que Belmondo lisait largement déplié dans un cours de littérature qui l'ennuyait au conservatoire. Dans L'Équipe, donc, qui consacre un cahier spécial à Bébel, qui n'était pas devenu boxeur par la faute des poumons et parce qu'enfant trop aimé, il n'aimait pas prendre des coups. Dans L'Équipe, donc, on revoit une autre icône des années 70 dans une série consacrée aux fêtards de la Formule 1. Il était d'une beauté sans nuance, brun, lèvres ourlées, regard velouté. Brigitte Bardot lui avait envoyé son secrétaire lui dire « Madame Bardot voudrait danser avec vous ». C'était en 1971. Deux ans plus tard, François Sever mourrait au Grand Prix des États-Unis et le revoir ce jour ajoute encore à la nostalgie. Dans L'Équipe encore, mais aussi dans Le Parisien, le journal de Saône-et-Loire, Midi Libre et le site de SoFoot, vous revoyez les traits fins d'un footballeur des années Belmondo. Un défenseur puissant qui formait avec Marius Trésor ce qu'on appelait la garde noire de l'équipe de France quand ses mots étaient innocents. Il s'appelait Jean-Pierre Adams et le 17 mars 1982, une greffe perturbait l'hôpital de Lyon où à 34 ans, il se faisait réparer le genou pour finir dignement sa carrière, entraîneur-joueur à Chalon-sur-Saône. L'anesthésie tourna mal, le cerveau d'Adams fut privé d'oxygène et il se retrouva dans un état végétatif loin de notre monde et resta avec nous, muets, yeux ouverts, sans parler, pendant 39 ans. Son épouse Bernadette le veillait, le nourrissait, le massait, lui faisait entendre sa musique qu'il aimait Aretha Franklin. Parfois, elle essuyait une larme sur le visage de son homme. Quelques fidèles, notre ami Jacques Vendroux et son Variété Club de France, soutenaient son courage, mais la vie passant, Bernadette était seule. Hier, le cœur de Jean-Pierre Adams s'est arrêté de battre, et si Belmondo n'était pas mort, il aurait été notre tristesse du jour. Mais comme Jean d'Ormesson à l'ombre de Johnny, ou Ginette Neveu dans l'avion de Cerdan, qu'enfant Belmondo admirait jusqu'à vouloir l'imiter, on ne meurt jamais seul.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.